huître plate, le merle et le goémon rouge. Au début des années 1840, la pêche côtière brestoise doit s'organiser pour mieux cohabiter. La réglementation des pêches est du ressort de la marine, car elle est en charge de tout ce qui se passe sur le littoral et en mer. Surtout, la marine est directement intéressée par l'état de la pêche. Au cours de leur vie, les pêcheurs côtiers doivent réaliser une sorte de service militaire sur les navires du roi. Autrement dit, s'il y a moins d'huîtres, il y a moins de pêcheurs, et s'il y a moins de pêcheurs, il y a moins de main-d'œuvre sur les navires de la marine. C'est donc par pur pragmatisme qu'elle cherche à sauvegarder ses ressources. Or, tout au long du XVIIIe siècle, la pêche côtière brestoise est modeste et n'intéresse que très peu l'administration maritime. Cette dernière est obnubilée par le fonctionnement de l'arsenal militaire et la pêche est pratiquée sans réel suivi, en libre accès. Mais, en 1840, la marine observe l'appauvrissement des bancs d'huîtres plates de la rade. Elle mandate le capitaine de corvette d'Abancourt d'enquêter sur leur disparition. Après avoir sillonné tous les recoins de la rade, celui-ci rapporte en 1842.
Ce merle contient une immense quantité de petites huîtres et même quelques moyennes qui pourront dans 2 ou 3 ans fournir abondamment à la consommation de Brest et des environs.
Plus loin, le capitaine d'Abancourt ajoute
« Il est impossible de calculer combien d'huîtres on a dû détruire depuis qu'on drague le merle dans ce parage. Dans un coup donné avec une drague de petite dimension, j'en ai compté 200 depuis 2 cm de longueur jusqu'à 4. »
Sur ces conclusions, le préfet maritime interdit l'exploitation du merle et du goémon rouge dans une partie de la rade en octobre 1842. Problème, ces ressources sont particulièrement prisées de la Société d'agriculture de Brest. En effet, le goémon rouge est un fertilisant marin, employé et épandu tous les ans sur les parcelles agricoles. De son côté, le merle est une algue calcaire pourpre qui ressemble au corail. Il est utilisé pour amender le sol, c'est-à-dire apporter du calcaire, et aérer les terres intérieures bretonnes, parfois trop denses. Pour l'écosystème marin, le merle constitue un habitat remarquable qui peut abriter plus de 300 espèces par mètre carré. Mais voilà, au début du 19e siècle, la Société d'agriculture de Brest cherche à développer l'agriculture de la région. Cela passe par le défrichement des landes, autrement appelées terres incultes, pour ensuite les cultiver. Or, ces défrichements seraient uniquement rendus possibles par l'utilisation du merle. Alors automatiquement, l'interdiction de draguer cette ressource dans les années 1840 passe mal. La Société d'agriculture mobilise tous les échelons de la politique locale et nationale pour revenir sur ce règlement. Après plusieurs années de conflit, la marine accepte finalement de lancer une grande enquête. En 1847, une commission mixte, composée d'agents de la marine et de la Société d'agriculture, est chargée d'étudier l'impact de l'exploitation du merle et du goémon rouge sur les huîtres plates. Pour y parvenir, ils échantillonnent chaque recoin de la rade pour connaître ce qu'il y a sous l'eau. De plus, ils interrogent les pêcheurs, les cultivateurs de la rade, mais aussi ceux de l'intérieur des terres pour connaître leurs besoins. Au terme de cette grande enquête, un premier règlement de pêche émerge en 1849, le premier de son histoire. Structuré autour de 74 points, ce texte s'inspire de ce qui a déjà été fait à Cancale ou Granville pour aménager la pêche des huîtres plates. Au-delà de cet aspect, ce règlement scelle un solide lien terre-mer. Je m'explique. Chaque année, une commission est chargée de visiter les bancs huîtriers de la rade pour inspecter leur état de santé. En fonction du résultat, le banc est ouvert, ou non, à l'exploitation lors de la saison à venir. Mais ce qui est très surprenant, c'est que la commission est composée d'agents de la marine ainsi que de membres de la Société d'agriculture de Brest. En d'autres termes, des représentants de la sphère agricole prennent activement part aux décisions de gouvernance de la rade de Brest. Or aujourd'hui, ce lien est totalement rompu. L'utilisation des engrais chimiques a détourné le regard de ces représentants de la mer. Aussi, le dialogue paraît rompu lorsqu'il faut parler des pollutions terrestres qui viennent affecter la rade de Brest. Pourtant, l'histoire nous rappelle que ces deux communautés ont noué des liens très étroits au 19e et 20e siècle. Leurs représentants étaient convaincus que le futur de la Terre ne pouvait être envisagé sans la mer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On ne peut imaginer l'avenir de la mer sans inclure la Terre.